nouvelle escale dans le tour du monde de Thierry Georges. Suivez le guide, c'est tout de suite sur RCF.
Mais je vais y arriver. Attends, je vais arriver à la formuler ma question. Est-ce que ce sont les architectes qui sont attirés par Prague ou Prague qui attire les architectes ?
Vítejte v České republice. Bienvenue en République tchèque.
Bienvenue à vous. Ahoy, suivez le guide, vous invite à découvrir la République tchèque. Prague, la ville aux mille tours et mille clochers, fait partie des destinations européennes touristiques majeures. Et il y a foule sur le pont Charles en plein été. Nous l'avons traversé dans l'émission précédente. Le reste de ce petit pays de 79 000 km² demeure plutôt méconnu des visiteurs étrangers. Et pourtant, les attraits touristiques sont nombreux. Nous en avons découvert quelques-uns à la fin des années 10, mais il manquait Prague. Terminons cette série session de rattrapage. Le 1er mai 2004, la République tchèque devient membre de l'Union européenne. Prague nous rappelle le printemps de Prague. Le nom de Jan Palach est connu de tous, cet étudiant en histoire qui s'est immolé par le feu place Venceslas le 16 janvier 1969. 2018 marqua le centenaire de la naissance de la Tchécoslovaquie qui fut dissoute en 1992. Une dissolution surnommée « divorce de velours ».
Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
Notre dernier rendez-vous pragois est entièrement sur la rive droite de la rivière Vetlava, plus connue en Europe de l'Ouest sous le nom de Moldau. Elle prend sa source dans la forêt de Bohême et, après 430 km, se jette dans l'Elbe, fleuve lui aussi natif de République tchèque. Nous parlerons architecture avec l'une des deux guides de la série. Architectures au pluriel, tant les styles sont variés, avec Yaroslava Novakova, et nous traverserons le quartier de Josef Hof, qui constituait le ghetto juif. Autre rencontre à Radio Prague, nous serons accueillis par le journaliste Guillaume Narguet, membre de la rédaction de l'édition francophone de Radio Prague. Enfin, dans notre premier suivi le guide pragois, vous avez découvert l'hôtel Nerudova 211 sur la rive gauche. Nous terminerons la série à l'hôtel Monastery, au monastère, rive droite, avec Marine Méral.
Bienvenue à Prague.
Nous allons partir à la découverte de Prague. Je rencontre notre guide qui va nous faire découvrir une partie de Prague. Ben, je vais te demander de te présenter, mais en tchèque.
En tchèque, d'accord. Moje jméno je Jarka Nováková, Jaroslava Nováková. A pracuji v Praxity Tourism. To je organizace, která pečuje o pražské turisty.
Et donc, si on donne la version française.
Alors, mon nom est Jarka ou Jaroslava, le nom officiel, c'est Jaroslava Novakova.
Mais tes amis t'appellent Jarka.
Oui, c'est ça. C'est vraiment diminutif de mon nom. Et comme ça, à la maison ou bien pour mes amis, je suis Jarka. Et je travaille à l'Office du tourisme de Prague, Prague City Tourism.
Dans notre découverte de Prague, à Jarka, nous avons vu tellement de palais et bâtiments et hôtels particuliers de l'époque Renaissance, de l'époque baroque, du classicisme aussi, mais l'architecture finalement a toujours été en mouvement à Prague.
C'est vrai parce que même au 19e, on a construit des différents styles néo. Et puis, bien sûr, Art Nouveau. Mais finalement, à l'époque, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, Prague commençait à se changer aussi. C'est-à-dire vraiment ce mélange des différents styles architecturaux est visible même ici, dans la vieille ville de Prague. On est à deux pas de la grande place, de la place de la vieille ville. Et on voit ici deux exemples qui sont magnifiques du point de vue de l'architecture du XXe. Tout d'abord, en face de nous, c'est la mairie actuelle, c'est-à-dire le siège de la tête de la ville de Prague dans nos jours. Ce bâtiment est connu aussi comme le nouveau hôtel de ville qui avait été réalisé juste autour de 1910 on le voit un tout petit peu par les statues du pharaon qui l'entourent et qui sont assez touchées par le style Art Nouveau. Et à notre gauche, on voit un bâtiment qui est tout à fait différent. C'est un bâtiment où on sent déjà vraiment le style moderne, le style fonctionnaliste. Le fonctionnalisme chez nous aussi avait été très développé entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, pendant des années 20, peut-être encore le début des années 30 aussi. Alors là, on voit la bibliothèque municipale. Le bâtiment de la bibliothèque de la ville de Prague est décoré par des statues qui représentent les différents sorts des arts. On y voit bien des arts, des sciences aussi, parce qu'on y voit même la philosophie, on y voit la musique, on y voit le symbole de la peinture ou bien de la sculpture. On voit vraiment le drame ou bien l'art du théâtre. Et tout ça, c'est vraiment très, très bien présenté avec des figures sur lesquelles, concernant les formes, on voit à merveille comment on avait travaillé autour de 1920.
Alors bon, fonctionnalisme, il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de décoration sur la façade. Sobriété, fonctionnelle, efficace.
Voilà, c'est, on le voit aussi ici, ce n'est pas du tout décoré. La façade est très, très simple. Pas de stuc, pas de la peinture, pas vraiment de la décoration, mais la seule chose, le balcon, qui est vraiment décoré avec les 6 statues qui représentent ces différents arts.
Oui, c'est ça, mais c'est une façade assez massive, mais en même temps qui est assez classieuse, qui a de la classe quand même.
Hein. Ah oui, parce que ça, ce qui était fonctionnaliste, c'était pas bête, c'est-à-dire...
Et point commun avec l'hôtel de ville, les statues finalement, elles sont un peu cousines, hein, les statues de l'hôtel de ville.
Absolument, absolument. C'est vraiment un style tout à fait différent.
On change complètement. Hein. Nous qui étions dans la ville Renaissance, là, on a vraiment traversé les siècles. Hein. Et on a traversé la rue aussi. Mais ça ne s'est pas arrêté à cette époque, donc avec le style ou l'architecture fonctionnaliste, ça a continué après.
Voilà, alors le fonctionnalisme, ça restait pendant une longue période chez nous, mélangé encore avec un style qui est connu comme le style national, Art déco, parce que les Tchèques avaient beaucoup aimé aussi Art déco rondo cubiste, ce qui est un style où se mélange rondo, le cubisme avec les formes qui sont rondales. Rondo cubiste.
Le rondo cubisme.
Ici, une des statues qui est du côté de bâtiment de la mairie, on voit quand même un autre phénomène de la ville de Prague, et ce sont des Juifs. Bien, c'était les Juifs, parce que Prague était entre autres aussi le quartier juif très réputé, une ville où la communauté juive avait joué un rôle très important.
Dans tous les domaines.
Dans tous les domaines. Et aussi l'histoire des Juifs pragois était une histoire qui était bien riche, parce que l'histoire des Juifs, ça commençait à Prague dans la moitié du XIIe siècle. Les Juifs s'installaient du côté de la grande place qui avait déjà existé. Les Juifs commençaient à développer leurs activités, qui étaient des activités, des métiers différents. Et puis depuis à partir du XIIIe siècle, c'était après le concile de Latran qu'on était surtout versé vers les questions financières, parce que les Juifs, c'était les gens qui avaient pu prêter de l'argent. Vraiment, c'est un phénomène de l'époque, depuis à partir du XIIIe siècle, pas seulement chez nous à Prague, mais partout en Europe. C'était tout à fait nouveau et très important. Et voilà, alors, chez nous, la communauté juive était très, très développée depuis cette période de 12e jusqu'à la fin de 16e ou bien le début du 17e siècle. Et la période la plus fameuse des Juifs pragois, qui est connue même comme l'art doré de la communauté juive, c'était la période de l'empereur Rodolphe II, un des Habsbourg, qui, comme l'empereur, avait son siège ici à Prague, dans le château, et qui avait offert aux Juifs des nouvelles possibilités. Entre autres aussi, c'était Rodolphe II qui leur a donné la possibilité d'agrandir un peu le terrain du ghetto, du vieux ghetto.
On disait le ghetto.
Voilà, c'était ouais. c'était le vrai ghetto.
C'est le quartier juif.
Les ghettos juifs avaient été formés depuis à partir du XIIIe siècle, pratiquement partout en Europe.
Ghetto, ça veut dire, si on traduit ghetto...
Ghetto, c'est le quartier fermé.
Quartier fermé,
un quartier
voilà.
limité. Un quartier qui était vraiment pour la communauté juive. Ouais, les juifs avaient été limités de vivre dans ce quartier-là. Ils n'ont pas pu quitter le quartier juif. Ils n'ont pas pu vivre... dans n'importe quel autre coin de la ville. C'est interdit.
Oui.
Ils avaient dû vraiment vivre uniquement dans ce terrain limité, dans ce terrain du ghetto.
Toujours.
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 Le vrai ghetto médiéval, c'était depuis la période médiévale jusqu'au chez nous, dans la monarchie des Habsbourg, jusqu'à la période de Joseph II. Joseph II, le fils de Marie-Thérèse d'Autriche, alors le frère de Marie-Antoinette, pour les Français.
Ah oui, alors, donc ça, on rejoint la Lorraine aussi dans l'histoire, avec l'empereur François Ier, etc.
C'était Joseph II, lui, qui avait offert pour les habitants de vieux ghettos des mêmes possibilités et des mêmes droits. Et c'était Joseph II qui avait pratiquement terminé l'existence du ghetto. Après la période de Joseph II, on ne peut plus parler
de ghetto.
Du ghetto. Parce que les Juifs avaient reçu la possibilité de déménager, d'acheter leurs propriétaires, de travailler normalement, même de participer au service militaire, c'est-à-dire vivre comme des autres. Les dernières limites pour des Juifs étaient définitivement terminé pendant la révolution de 1848. Cette révolution avait finalement vraiment ouvert la vie pour des Juifs, qui est devenue tout à fait normale.
Donc, et les nazis ont à nouveau ghettoisé.
Voilà. Ça, c'est une autre chose, oui.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit ghetto, on pense au ghetto Seconde Guerre mondiale et moins au ghetto de l'époque du passé. Il y a aussi le ghetto de Venise, enfin, etc. Mais ce n'était pas des ghettos-prisons.
Non. Ce n'était pas le ghetto prison-prison à l'époque médiévale. Les Juifs avaient pu réaliser leurs services, par exemple, commerçants. Ça oui, mais on avait aussi beaucoup de périodes dans la monarchie des Habsbourg où les empereurs, même impératrices, c'est-à-dire la reine Marie-Thérèse, qui avait vraiment décidé de faire déménager des Juifs. C'est-à-dire, c'était la décision de quelques rois, de quelques empereurs, de faire vraiment obligatoirement déménager des Juifs. Chez nous, à Prague, ça existait aussi. C'était cette reine, Marie-Thérèse, qui avait fait déménager obligatoirement des Juifs. Une grande partie du ghetto ici avait dû quitter et déménager vers un autre quartier, vers un autre coin.
וירח באדום את מלכותו טבל בפיה Ratsa et Eina et Leilo Hamar Ka'abu Umiyat Kni'a Blikra Ish et Mishko Matsar Admar.
Dans ce dernier Suivez le Guide pragois, nous sommes avec notre guide Yarka dans le quartier de Josef Hof qui constituait le ghetto juif.
Nechte se provést Prahou. Suivez le guide à Prague.
Kevin Amol is a shtetl, Bambrek funester in toll.
Pendant la Seconde Guerre, les nazis ont à nouveau regroupé les juifs avant de les déporter.
Oui, ça c'était vraiment une autre histoire. Une histoire qui était, même pour des Pragois et pour les pays tchèques, très triste parce que après que le protectorat, qui s'appelle le protectorat de la Bohème et de la Moravie, avait été formé, les nazis, comme on le sait bien, avaient vraiment occupé le pays et ils ont commencé à appliquer les lois de Nuremberg. Les lois de Nuremberg, c'était la volonté de totalement, mais vraiment totalement, exterminer des juifs de l'Europe.
Combien de juifs pragois ou tchèques ont été assassinés dans les camps?
Alors, dans les camps de concentration, les nazis avaient assassiné presque 90 000 personnes. Hein. C'est-à-dire, nous avons eu chez nous, en Tchéquie, aussi un camp qui est connu, le camp Terezin. Et ce camp Terezin avait pratiquement servi comme le camp de transfert. Alors, des villes différentes, des coins différents tchèques, les juifs avaient été tout d'abord envoyés dans Terezin et du Terezin réenvoyés.
C'était un camp triage.
Voilà. Mmh. Et du Terezin réenvoyés dans les autres camps
d'extermination.
D'extermination, voilà.
80 000 juifs vivant sur le territoire actuel de la République tchèque furent assassinés par les nazis, soit 70% de la population totale juive.
Quels autres styles on peut voir à Prague, alors, si on revient à l'architecture?
On peut voir le style cubiste. On peut voir le brutalisme.
Brutalisme brutal.
Oui, c'est vrai. C'est le style qui est connu par des architectures qui étaient brutalement construites sans aucune décoration. Absolument.
Donc ça, c'est quand, le brutalisme?
Absolument. C'est le brutalisme, ce sont des années 70, des années 80. Le brutalisme en construction qui est vraiment massif, où se mélangent des coins de force en architecture moderne.
Et puis, ça continue. Est-ce que ce sont les architectes qui sont attirés par Prague ou Prague qui attire les architectes? Dans les deux sens.
J'espère bien que les deux.
Oui.
J'espère bien que Prague est vraiment une ville attirante pour des architectes. Par exemple, si on parle de l'Anne qui danse, une des très très belles architectures réalisées.
Comment la décrire, la maison qui danse? C'est une maison qui, on a l'impression qu'elle est en mouvement.
Qui danse?
Ah oui, elle danse.
Qui danse. Parce que l'architecture de cette maison s'est composée de deux figures potentielles, c'est-à-dire c'est une architecture, mais on a l'impression de voir vraiment des figures qui dansent. Une figure féminine, une figure masculine, ils sont en train de danser. Et c'est une idée qui était composée par Frank O'Gerry, et un architecte tchèque qui s'appelle Milunic. Et ils ont composé d'ailleurs une architecture qui est très intéressante au bord de la rivière, qui décore un quartier de Prague et qui en même temps décore aussi la rivière.
Y a-t-il une politique d'accueil au niveau de la ville, enfin d'encouragement de la ville de Prague pour les architectes à venir créer à Prague? Enfin, après, on peut encourager, après, il faut financer. Mais
on peut constater qu'aujourd'hui, c'est plutôt dans les mains des différentes sociétés qui veulent construire des choses, qui sont en train de coopérer avec des grands architectes, si vous voulez. Mais Jean Nouvel, par exemple, travaillait à Prague. Jean Nouvel avait travaillé dans 2-3 quartiers de Prague, pas tout à fait au centre de la ville, mais dans des quartiers très importants. Le quartier Smichov, le quartier Holešovice, dans un quartier de Prague qui s'appelle Karlin. Il y a vraiment une quantité de l'architecture moderne merveilleuse, merveilleuse grâce à une histoire très mal et très triste. C'était des grandes inondations à Prague. En 2002, Prague était touchée par des inondations énormes. Ce quartier duquel je vous parle, c'est-à-dire le quartier Karlin, c'était le quartier qui était très, très touché. Il a fallu détruire des maisons qui étaient tellement, tellement noyées qu'il a fallu les faire vraiment détruire. La statistique était mauvaise. Il a fallu faire des trous, vraiment. Et on les a remplacés par des belles architectures modernes. Autour de 2000-2010, on y voit des très beaux bâtiments modernes.
Nu am vrut să-ți dau răspunsul la întrebare, dar cred că vei afla și tu curând. Oare dragostea sau viața-i trecătoare? Nu știu dacă-ți fiu, dar dragostea o simt. Mă privești cu atâta drag și mă aștept să ard, dar nu e în firea mea să mă prefac. Iar dăm sufletul și inima nebună, dar cred că m-am uitat pe mine însumi în furtună.
Alors, on a prac vraiment tout.
Prague,
ce sont avant tout, bien sûr, ces quatre villes historiques protégées par l'UNESCO, mais on a aussi des quartiers qui sont magnifiques, qui sont bien éloignés du centre de la ville, qui attirent, bien sûr, cela dépend de quelle volonté, de quel style architectural on préfère.
Ça dépend aussi pour les visiteurs, combien de jours ils ont, et puis après avoir découvert au cours du premier voyage la vieille ville, Malestrada, les quartiers les plus historiques, eh bien ils élargissent leur champ d'action. Oui. Mais si on peut traverser les siècles, on a dit l'époque Renaissance, etc., jusqu'à une architecture du XXe siècle, si on peut découvrir tout cela à Prague, mais il faut bien le reconnaître, et on revient à l'histoire du XXe siècle, c'est parce que Prague est une ville qui a été peu détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, contrairement, je sais pas, à Varsovie, par exemple, ou d'autres capitales européennes.
C'est vrai. Prague était relativement peu détruite concernant la fin de la Deuxième Guerre, et pendant la guerre même, la ville n'était pratiquement pas détruite, c'est-à-dire pas par des nazis. C'était un bombardement en février 1945.
Il y a eu les bombardements alliés.
Oui, mais relativement peu en comparaison des autres. Alors, c'est vrai que Prague, concernant la protection, on peut constater que pendant la Deuxième Guerre mondiale, Prague avait vraiment la chance.
C'est ça, c'est pourquoi Prague peut nous raconter toute son histoire aujourd'hui aux visiteurs du XXIe siècle.
Et si on dit que Prague est un livre de l'architecture, c'est vrai. C'est vrai parce que la ville peut offrir vraiment des exemples de absolument tous les styles architecturaux.
Djakouye.
Moi, je vous remercie, Djakouye, et officiellement Djakouye.
Oui, mais moi, je peux dire quoi alors? Je peux dire Djakouye ou Yé alors?
Tu peux dire Djakouye.
Ah, Djakouye. Mais Djakouye, Yarka, Djakouye. On a traversé les siècles, on avait une machine à voyager dans le temps, hein, finalement. On a fait un sacré voyage. Hein.
Voilà, c'est ça, c'est vrai. Je vais quand même constater qu'il vaut la peine de venir à Prague, passer le temps parce que. Vraiment, ça, ce que vous allez voir à vos yeux, c'est le meilleur ce que vous pouvez faire.
Et simplement, là, il fait beau. Enfin, il fait bon et tout, mais il faut quand même mieux partir avec un parapluie.
C'est toujours plus sûr.
Parce que j'ai remarqué, les Pragois, ils ont toujours un parapluie.
Toi, La ville n'est pas vraiment une ville pleine de pleuvoir.
Merci beaucoup, Yarka. C'était vraiment une découverte exceptionnelle.
D'accord. Merci beaucoup et au revoir.
Avem în viață câte o furtună mare, restul sunt doar ploi. Am naufragiat în brațele tale și în ale tale buze mori. La tine am ajuns, fiind deja plecat. Te strâng la piept, dar sunt
La suite de ce dernier Suivez le guide à Prague vous invite à rencontrer le journaliste Guillaume Narguet. Nous sommes juste derrière la célèbre place Venceslas, dans le quartier de Vinoradi, les vignobles et même vignobles royaux.
Nechte se provést Prahou. Suivez le guide à Prague.
Zde Praha, československé zahraniční vysílání.
Bonjour Guillaume.
Bonjour Thierry.
Où sommes-nous ?
Eh ben, nous sommes dans le bâtiment de la radio publique tchèque. Alors, ce n'est pas tout à fait le bâtiment historique. Le bâtiment historique se trouve de l'autre côté. C'est un monument qui est classé en raison de son histoire. C'est un bâtiment qui se trouve juste derrière le musée national, dans le centre de Prague, et qui a été un haut lieu des affrontements au moment de la libération de Prague en 1945 et de l'écrasement du printemps de Prague en août 1968. Et puis, il faut le dire aussi, la radio tchèque fête cette année son centenaire. Il faut savoir qu'après la BBC, la radio tchèque a été la deuxième radio au monde à diffuser sur les ondes. Donc voilà, on a devant vous, vous voyez là.
Des magnétos, des Revox, d'autres magnétos, l'évolution finalement de la technique, et puis des postes de radio, à l'époque où les familles se regroupaient autour du poste de radio pour l'écouter. Hein.
Voilà, tout à fait. Par exemple, pour écouter les exploits d'Emil Zatopek aux Jeux Olympiques à Helsinki en 1952, on voit ses parents au fin fond de la Moravie qui écoutent le poste, l'oreille collée à l'appareil. Donc c'est effectivement le charme, la magie de la radio.
Qui perdure finalement cette magie de la radio, radio qu'on avait annoncée mourante quand la télé s'est développée, puis la radio est toujours là. Il y a Radio Prague Tchéquie, République Tchèque, et Radio Prague International.
Alors il y a la radio tchèque, parmi toutes les stations de la radio tchèque, il y a effectivement Radio Prague International. Donc ce sont les émissions internationales de la radio tchèque. On pourrait dire que c'est l'équivalent de BBC World ou de RFI pour Radio France. Donc notre mission consiste à informer de ce qui se passe en République tchèque dans différentes langues, parmi lesquelles encore le français.
Alors les langues, c'est quoi ? Il y a le français, il y a l'anglais, l'allemand, l'espagnol.
Et puis aussi le russe. Le russe, c'est un service important. Et puis depuis peu aussi un podcast proposé en ukrainien qui est destiné aux très nombreux réfugiés qui sont arrivés en République tchèque en provenance d'Ukraine. Il faut savoir que par rapport à sa population, la République tchèque est le pays qui a accueilli le plus grand nombre de réfugiés. Alors, hein, on parle d'environ 500 000, c'est des chiffres, même pour le ministère de l'Intérieur, qui sont parfois difficiles à vérifier, mais sont très nombreux encore à être restés. Il suffit d'ouvrir un peu les oreilles pour entendre de l'ukrainien un peu partout à Prague et en République tchèque aujourd'hui.
Qui écoute Radio Prague International en français ?
D'abord les gens qui aiment
musique de la langue.
Qui aiment ou qui ont un lien avec la République tchèque. Dans tous les pays francophones. Alors, c'est essentiellement en Europe, donc elles sont la France, la Belgique. Mais après aussi tous les francophones qui vivent en République tchèque. Hein, Radio Prague International est le seul média aujourd'hui en République tchèque qui traite de l'actualité tchèque en français. Donc,
c'est important pour être au courant de ce qui se passe dans le pays dans lequel on vit et qui n'est pas forcément traité, bien sûr, par les radios françaises, hein, ou très très peu.
Oui. Bon, après, l'actualité en République tchèque n'est pas toujours brûlante. Quand on est journaliste, ce n'est pas forcément une bonne chose. Mais je vais dire, dans la région, dans cette Europe centrale, où il y a quand même des problèmes importants. La République tchèque, c'est plutôt un îlot de tranquillité. Quand on est journaliste, ce n'est pas forcément une bonne chose. Mais pour la vie quotidienne, c'est très bien.
Radiožurnál je půl třetí. Jana Utendrovská a aktuální zprávy.
Nová europoslankyně Klára Dostálová z hnutí ANO skončila ve funkci místopředsedkyně poslanecké sněmovny. Předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 dnes dostala její rezignaci. Hnutí ANO už v pátek nominovalo na
místo. Tu es français ou franco-tchèque? Tu as une longue histoire avec la République tchèque. Déjà, tu étais étudiant ici en République tchèque?
Voilà, j'étais étudiant en République tchèque. Alors peut-être vos auditeurs peut-être que ça les intéressera. En fait, mon histoire avec la République tchèque remonte à une rencontre européenne de jeunes de Tézé.
Ah, oui.
À Wrocław, donc dans le sud de la Pologne. Alors c'était pour la rencontre 1995-1996. Voilà. Et donc à l'époque j'avais à la Saint-Sylvestre rencontré des Tchèques, notamment une Tchèque avec laquelle
Ça a scellé ton futur.
voilà. Mais je suis pas le seul Français dans ce cas qui a succombé au charme des au charme des Tchèques. Je suis venu une première fois l'été suivant. Alors c'était en Moravie. J'avais travaillé chez des producteurs de pommes de terre, donc c'était une expérience très enrichissante. Et puis ensuite je suis revenu à Prague pour apprendre le tchèque. D'abord dans l'idée de venir un an, de découvrir. J'ai vécu dans une famille pragoise dans la banlieue, donc c'était aussi un grand changement. Moi qui venais d'un milieu rural, on va dire, en France. Et puis voilà, je suis toujours resté parce que j'ai vite fait des progrès en tchèque aussi grâce au football.
Pourtant, c'est, paraît-il, difficile d'apprendre le tchèque. Alors peut-être l'amour est-il à l'apprendre?
Après, c'était plus l'amour pour la République tchèque en tant que telle. C'est une langue difficile, mais c'est comme pour tout le reste, quand on a envie, on y arrive. Donc voilà, moi j'étais vraiment venu avec l'idée d'apprendre le tchèque. J'ai suivi des cours intensifs, j'ai vécu dans une famille, j'ai joué au foot dans un club tchèque, donc l'un dans l'autre, ça fait qu'au bout d'un an, je me débrouillais. Et puis à l'époque, je sentais qu'il y avait une atmosphère qui était très, très positive.
Tu es arrivé finalement quelques années après la révolution de velours ?
Alors pas tout à fait, je suis arrivé à Prague, mon premier séjour en Moravie, c'était à l'été 1996, un an plus tard, je suis revenu.
C'est assez proche quand même.
Oui, assez proche, mais déjà, c'était plus tout à fait la même chose. Alors moi, si j'ai un regret par rapport à mon parcours en République tchèque, c'est de ne pas être né quelques années plus tôt et de ne pas avoir vécu vraiment les premiers mois et les toutes premières années qui ont suivi la révolution, parce qu'il y avait ici une ambiance vraiment positive, d'euphorie. Et on était vraiment, en plus pour les journalistes, au centre de l'intérêt du monde était concentré sur...
Vraiment braqué.
Voilà, braqué sur l'Europe centrale et l'Europe de l'Est à l'époque. Et puis ici, en République tchèque, il y avait bien évidemment la figure de Václav Havel qui a été quand même... Parmi tous les changements qu'il y a eu en Europe centrale, il y a eu Lech Walesa en Pologne, mais après, il y a surtout aussi Václav Havel en Tchécoslovaquie, parce qu'à l'époque, c'était encore la Tchécoslovaquie.
Tu l'as rencontré ?
Alors, j'ai déjà croisé à mes tout débuts. À mes tout débuts, quand j'étais ici stagiaire à la radio, mais non, je n'ai jamais eu l'occasion de l'interroger. Skrčmi ma neženu, nehrdzaviem z vody. Skrčmi ma neženu, nehrdzaviem z vody. Prelietavá myseľ, duša námorníka. Ženba nemá zmysel, ľahko jej unikám. Ženba nemá zmysel, ľahko jej unikám. Povedz mi Bože, keby sa už zmení, prečo nemôže čar jednej ženy.
Rádio Praha proto připravilo půl hodinku věnovanou vysílání českého a přenosu 1992 československého rozhlasu. Od mikrofonu vás zdraví Jan Charvat.
Jsem toujours avec Guillaume Narguet dans les studios de Radio Prague.
Suivez l'équipe en République tchèque.
L'histoire de cette radio, on dit Radio Prague, on dit comment
Alors avant,
déjà en tchèque, comment dit-on?
Radio Praha.
Sur le bâtiment, c'est écrit
Radio tchèque, c'est Český rozhlas.
C'est ça, Český rozhlas.
Et Radio Prague, c'est Radio Praha.
Qui, en un siècle, a vécu quand même des périodes mouvementées sous les différents régimes. Enfin, c'est pas une histoire lisse, l'histoire de Radio Praha.
Non, l'histoire de Radio Prague, c'est une très longue histoire, parce que c'est pas propre à la radio tchèque, mais beaucoup de radios dans le monde avaient des émissions internationales. Effectivement, sous le régime communiste qui a duré pendant un petit peu plus de 40 ans, Radio Prague a essentiellement été un instrument de propagande. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir qu'à l'époque, il y avait les émissions étaient diffusées dans des dizaines de langues. Il y avait, par exemple, il existait une rédaction française et une rédaction francophone.
Qui était moins franco-française.
Qui était moins franco-française, mais qui surtout s'adressait aux pays africains.
Ah oui.
Parce que c'était une région attente pour le régime tchécoslovaque.
Il y avait aussi la Seconde Guerre mondiale, forcément. C'est après la guerre, le gros dégraissage au niveau de l'équipe de Radio Prague. Ou c'est après la période communiste ?
Ah, c'est surtout, je pense qu'il y a eu des purges importantes après 1968. Il y en a certainement eu aussi en 1948, après ce qu'on appelle le coup de Prague, en février. Donc c'était l'arrivée au pouvoir du régime communiste, de type stalinien, avec des procès politiques, hein, dont on parle beaucoup aujourd'hui encore. Et donc voilà, donc effectivement, à l'époque, il y a forcément eu des purges à la radio. Et ça fait partie de son histoire.
Ouais, ça doit être intéressant aussi, j'ai vu qu'en 1965, il y avait des émissions vers les pays capitalistes et des émissions différentes vers les pays communistes.
Je ne l'ai pas vécu.
Non, bien sûr. Et même des émissions clandestines en 68.
Oui, et d'ailleurs, des émissions clandestines. Mais après, c'est difficile aussi d'imaginer ce que peut le... Quand on l'a pas vécu, ce que peut être des émissions de propagande, parce que même si on peut ici écouter, il y a des extraits, c'est en fait on se rend compte que c'est inaudible.
Il y a des archives.
Il y a des les archives de la radio sont très impressionnantes. Mais
inaudible comment ?
Inaudible dans le sens où c'était vraiment de la propagande et c'était faut faire comme ça, faut faire comme ça, le régime est le meilleur, et ainsi de suite. Donc c'était, je veux dire, au niveau du contenu, ça n'a aucun sens. Donc aujourd'hui, c'est intéressant comme document d'archives. On écoute deux minutes pour se faire une idée et se dire que refermer le bouton, quoi.
Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej konferencii na tému Na počiatku bolo slovo, a to slovo bola svinia. Informer vous plus de cette thème sera podpredseda vlády a minister obrany.
On vient d'écouter un extrait de la conférence de presse de lundi. Au commencement était le verbe et le verbe était svinia ou truie en français. C'est le titre qu'a voulu donner lundi à sa conférence de presse le ministre de la Défense Robert Kalinjak, bras droit de Robert Fico. Arpad Scholtes.
Radio Prague en français va à la rencontre des francophones de République tchèque, majoritairement, pas majoritairement, mais beaucoup.
Alors il faut savoir que même si Radio Prague International dépend de la radio tchèque, c'est un service qui est financé par le ministère des Affaires étrangères tchèque. Donc notre mission consiste à présenter l'actualité tchèque, alors économique, politique, culturelle, sportive, ainsi de suite, société. Mais aussi à faire la promotion de la République tchèque à l'étranger. Donc, c'est-à-dire, on a beaucoup de programmes sur le tourisme. On a actuellement une série sur les palais modernes à Prague, sur des séries vidéo sur les jardins de Prague. Mais aussi, on présente des entreprises tchèques qui exportent. Donc, je dirais que c'est notre mission. Puis, effectivement, on s'intéresse aussi à tout ce qui touche aux relations franco-tchèques ou tchéco-francophone, hein, parce que voilà, la francophonie se limite pas à la France, même en République tchèque.
Ouais, mais on peut conseiller même aux touristes, finalement, qui passent quelques semaines en République tchèque, pour savoir quand même ce qui se passe dans ce pays, et d'écouter Radio Prague International en VF.
Oui, tout à fait. Mais je pense effectivement que comme tout est archivé, grâce au site Internet, hein, qui a été lancé en 2000, si je me souviens bien, Le site de Radio Prague est une mine d'informations, une source, je dirais presque, sans fond. Donc effectivement, si on vient, mais pas forcément à Prague, n'importe où en République tchèque, je pense qu'on trouvera des informations en français sur n'importe quel endroit, enfin vraiment sur beaucoup de choses.
Déjà, on fait un premier voyage depuis la France avant de partir, ou même si on n'a pas prévu de voyage, mais c'est une façon de voyager en République tchèque en écoutant Radio Prague International.
Oui, mais ça, c'est pas propre à... Je pense que c'est pas propre à Radio Prague. Hein, voilà, encore une fois, c'est la magie de la radio, hein, qui il suffit d'un poste. Alors, même, aujourd'hui, on n'a même plus besoin de poste. Hein, il suffit d'avoir un téléphone et deux écouteurs. Et puis voilà, on peut se retrouver avec un peu d'imagination à l'autre bout du monde. Et voilà, encore une fois, c'est la magie de la radio. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, Moi qui étais passionné de sport et notamment de football et des multiplexes que j'écoutais, on s'imagine grâce aux voix des reporters dans les stades. Et voilà, la Radio Prague, c'est la même chose. On peut s'imaginer en République tchèque grâce à nos émissions.
Dirais-tu, Guillaume, que la vie à Prague et en République tchèque, au-delà de ton métier qui te passionne, est agréable?
Déjà, Prague est une ville magnifique. Il y a les avantages d'une capitale, mais ça reste une ville à taille humaine puisqu'il y a un peu plus d'un million d'habitants. Il y a un système de transport en commun qui est parmi les meilleurs au monde. C'est calme, sécurité. Quand on voit aujourd'hui tous les faits divers en France, moi je suis originaire de la région lilloise. Quand je reviens régulièrement pour ma famille. Quand j'ouvre la Voix du Nord ou que j'écoute les informations en France, je me dis que c'est une chance de vivre en République tchèque. Il y a vraiment beaucoup d'aspects positifs. Il y a beaucoup d'étrangers, d'expats qui viennent et qui restent. Et qui découvre un pays. Alors, malgré l'obstacle de la langue, c'est assez facile d'échanger en anglais ou en allemand. Non, mais vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont très bien en République tchèque. Et je pense que là, les Français s'en rendent pas forcément compte, mais je dirais qu'il y a une qualité de vie qui, à mon avis, est meilleure qu'en France, par exemple.
Merci, Guillaume.
De rien, tout le plaisir était pour moi.
La lumière de la presse.
Des députés à approuver les propositions pour décoration d'État qui seront décernées cette année traditionnellement à l'occasion de la fête nationale du 28 octobre.
Nebo chceš jít pod zhaslou lampou, budeš-li chtít sochu zla. Uvidíš kouzla, co můžeš mít, musíš mít svou velkou lásku. Praha je láska, zlato i sůl, prostředí stůl, slávy je voní. Kávy, číšníci kráčí sem a tam, večerní Praha, čerstvé zprávy, šopín už září krásou dam, prostřený stůl, tak co si chceš dát, můžeš si brát.
Nechte se provést Prahou. Suivez le guide à Prague.
C'est au monastère que se termine avec Marine Méral notre série à Prague. Nous sommes dans le centre historique, au jardin du monastère de Strahov. Je vous rencontre, Marine, au monastère. On peut dire que vous êtes entrée au monastère à Prague pour 4 mois. J'ignore si c'est votre premier monastère, finalement, votre premier long séjour dans un monastère.
Oui, c'est la première fois que je suis proche d'un monastère et à Prague aussi la première fois.
Ce n'est pas une espèce de retraite au monastère. Quoique, ici dans ce lieu, on est en plein centre de Prague et on a l'impression d'être ailleurs. Quand on se balade dans les sites les plus touristiques de Prague et qu'on se retrouve avec cette foule immense, on est totalement au calme ici, on ne sait plus très bien où on est. On est dans un autre monde et pourtant on est à quelques centaines de mètres seulement de la foule. Alors si vous êtes entré au monastère, ce n'est pas un monastère avec des bonnes sœurs en activité, c'est un monastère avec des touristes.
Oui, on a une cour intérieure qui fait qu'on est vraiment dans un calme. Puis on a la chance aussi à l'hôtel d'avoir ce calme qui coupe du bruit de la rue. Et puis on a l'impression d'être, ce que je disais, d'être au repos, de pas être au travail, d'être vraiment dans une plénitude.
Alors vous êtes venu travailler ici dans cet hôtel qui est le Monastery Garden Prague. C'est un boutique hôtel, il y a une trentaine de chambres. Je ne sais pas si on a le sentiment quand on y travaille d'être un peu en famille, mais on est aussi dans un site historique qui nous fait remonter au XIIIe siècle. Alors passant 4 mois ici, est-ce que vous avez pris le temps de vous plonger un peu dans l'histoire du lieu ?
Oui, pour la petite histoire de l'hôtel, donc il ne fait pas partie du monastère directement. Il est vraiment collé au monastère, qui fait qu'on a certaines chambres qui donnent une vue sur le monastère.
Mais il y a vraiment toujours un monastère, enfin un monastère, un lieu qui n'est probablement plus en activité.
Oui, non, le monastère n'est plus en activité depuis 1900.
Ouais, bon,
par là. Ça fait très longtemps. Mais il peut encore se visiter, il est ouvert au public, il est placé, c'est un monument national de Prague, parce que l'architecture, c'est l'une des plus anciennes architectures gothiques de Prague. Il est ouvert au public pour la visite.
Les visiteurs qui séjournent à Prague, alors il y a ceux qui ont envie d'établissements très très modernes, mais il y a ceux qui ont envie de se plonger dans une atmosphère historique. Et ça ne manque pas, vu le nombre de palais, de bâtiments historiques dont l'histoire se raconte sur plusieurs siècles. On fait un bond dans l'histoire ici.
Le bâtiment lui-même, il abritait une ancienne famille italienne à l'époque. Quand l'hôtel a été construit dans cette maison de cette famille italienne, ils l'ont appelé la Casa Marcello, parce que c'était la famille Marcello qui habitait à l'hôtel. Donc c'est très vieux, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a une architecture un petit peu différente du monastère à l'intérieur, qui est un peu rénovée, on va dire. Et c'est en 2021 que l'hôtel a décidé de changer de nom et de plus...
Ah, c'était déjà un hôtel avant ?
Oui, c'était un hôtel avant, donc sous le nom de Casa Marcello. Donc il y avait énormément d'Italiens qui venaient pour l'histoire de la famille italienne. Quand les nouveaux propriétaires sont arrivés, ils ont vraiment décidé de ramener l'histoire du monastère, vu qu'ils sont vraiment collés. En fait, si on fait le tour de l'hôtel, on est dans le monastère, que ce soit dans les jardins ou dans le couvent de Sainte Agnès de Bohême. Et donc, c'est pour ça d'où vient le nom Monastery Garden, parce qu'on a un très joli jardin dans la cour intérieure.
Et là, on peut prendre son petit déjeuner, manger, boire un verre.
C'est vrai que c'est agréable. Moi, le matin, quand j'arrive, je vois toujours les clients prendre leur petit déjeuner. Puis quand il fait bon comme ça, on entend le chant des oiseaux, donc c'est super agréable. Et le midi aussi, le bistrot est ouvert, le midi et le soir. Donc, je pense que c'est... Voilà, c'est cocooning, c'est familial.
De chambres, c'est pas énorme, bien sûr. Et c'est une famille enfin, qui a repris ce bâtiment et cet hôtel.
Oui, c'est une famille. Donc, ma directrice, son papa est le, on va dire, l'homme de maintenance de l'hôtel. Ses enfants aident tous les week-ends.
Ah, toute la famille travaille.
Oui, toute la famille travaille dans l'hôtel. Donc, elle, c'est la general manager. Et ses enfants aident aussi les week-ends pour les petits déjeuners, etc. Puis à faire des petites tâches annexes. Sa belle-sœur travaille et c'est la comptable de l'hôtel, donc c'est vraiment très familial. Et son mari, lui, il est directeur de la plateforme de réservation dans lequel fait partie l'hôtel, donc c'est vraiment familial. Il y a toute la famille qui travaille et puis ça se ressent quand on travaille, c'est très familial.
Ouais, parfois, une famille peut être propriétaire, mais juste propriétaire et ne pas travailler physiquement. Mais donc là, ils sont tous mis au boulot.
Oui, c'est ça. Ils sont tous au charbon.
Et on est à deux... Alors, je n'imaginais pas, parce qu'on a parfois du mal à se situer après. On fait des tours et des détours. Et puis là, ce sont des petites rues, des ruelles. Donc, mais on est près aussi de la Moldave sur le plan. Non ?
La
Vatlava ?
Oui, la Vatlava. Oui, c'est vrai qu'on est juste derrière.
Oui, parce que bon, c'est vrai que moi, je ne vis pas à Prague, alors on a tendance à donner le nom qu'on utilisait davantage en France, la Moldau, mais vous dites, vous êtes une vraie pragoise, donc vous dites la Vatlava.
Oui, c'est ça. Non, la Vatlava, c'est vrai qu'on est juste derrière. Si on contourne, en fait, l'hôtel, il y a le monastère, et ensuite, il y a la Vatlava, donc on est à moins de 5 minutes à pied. Et après, on est aussi dans le quartier juif. Donc, on est vraiment proche de tous les monuments du centre-ville. On est vraiment très, très bien placé.
C'est votre premier séjour à Prague ou vous étiez déjà venu à Prague ?
Non, moi, c'est mon premier séjour à Prague. J'en avais déjà entendu parler parce que mes parents étaient venus en visite, des amis aussi et de la famille. Mais moi, c'était vraiment ma première fois ici et j'ai vraiment adoré l'expérience.
Donc, vous êtes, Marine, une paloise voyageuse dans ces métiers de l'hôtellerie. Et étant à Prague, vous arrivez d'un long séjour...
au Mont Tremblant, c'est ça? C'est pas Tremblay, il y a beaucoup de Tremblay au Canada, au Québec, mais c'est le Mont Tremblant. Tremble-t-on sur ce mont? Mais c'est une station de ski, enfin, c'est plutôt la montagne québécoise.
Oui, c'est ça. J'ai eu la chance de partir au Canada pendant 6 mois. Et le Mont Tremblant, c'est donc une montagne dans les Laurentides, au Québec. C'est à 1 heure de Montréal, on va dire. Et très, très bien placé. L'hiver, la station de ski est très, très bien agencé, il y a beaucoup de choix de pistes, etc. Et puis pour l'été aussi, il y a énormément d'activités à faire et c'est un beau coin de paradis là-bas aussi.
Nový mokul zase supermotoru dám, starý olej vypustím, ale kam s ním, šrum, šrumy, šrumaj dám, na pískoviště ho dětem dám, šrum, šrumy, šrumaj dám, dobře se jim budou dělat kyplíčkama bábovičky, šrum, šrumy, šrumaj dám, do bazénu olej možno vlít, šrum, šrumy, šrumaj dám.
Vous êtes engagé dans un tour du monde, vous passez d'un pays à un autre, alors d'une ambiance à une autre. Vous avez choisi précisément Prague. Pourquoi avez-vous choisi Prague? Ou c'est Prague qui vous a choisi, je ne sais pas.
C'est peut-être ça, c'est peut-être Prague qui m'a choisi. Après mon séjour au Canada, je souhaitais avoir plus d'expérience et rester un petit peu en Europe pour pas trop repartir loin de la famille, qui en a un petit peu marre. On m'a accepté à Prague, donc j'ai dit je ne connais pas cette ville, puis c'est une capitale. Ayant toujours choisi des petites villes avec beaucoup d'espace, etc., je me disais on va tenter une autre capitale, et je ne suis absolument pas déçue.
Là, je vous rencontre presque sur le départ, puisque vous rentrez à Pau, du coup, en fin de semaine. En 4 mois, vous avez eu le temps de découvrir, je suppose, Prague. Vous n'étiez pas à l'hôtel tous les jours, 7 jours sur 7, donc ça vous a laissé le temps de partir à la découverte de Prague.
Oui, oui, en 4 mois, j'ai la chance d'avoir tous mes week-ends, donc j'ai pu bien visiter la ville, et pas que, parce que j'ai aussi visité d'autres villes de République tchèque. Prague, l'avantage, c'est qu'il est très bien placé, la ville est très bien placée en République tchèque, donc on a d'autres jolies villes à une heure et demie de route, donc ça m'a permis d'aller voir Pilsen, qui est la capitale, on va dire, de création de la bière tchèque.
Pilsen, c'est un nom que tout le monde connaît, enfin une Pils,
voilà,
en tout cas.
Pilsen Urquell. Puis j'ai pu aussi aller à Kutná Hora et Kolín. Donc là, c'est une autre ville un peu plus élevée, on va dire. Et il y a notamment l'ostuaire de Kolín, qui est intéressant à voir. Et dernièrement, j'ai été à Karlovy Vary, qui est la ville des thermes de République tchèque. Donc très joli aussi.
Et à Prague, qu'avez-vous aimé à Prague?
À Prague, tout. Non, l'architecture est magnifique, tous les bâtiments sont colorés, donc on en prend plein la vue à chaque coin de rue. Donc c'est l'avantage aussi, c'est pas terne, surtout quand il y a du soleil comme ça. C'est rempli d'histoire en fait, il y a énormément d'histoire, que ce soit dans le quartier juif ou avec le château, le Charles Bridge. Il y a des monuments plus récents comme la Dancing House, donc c'est sympa aussi de voir ça. Il y a tout le côté... La
fameuse maison qui danse,
oui. Oui, c'est ça. Il y a tout le côté historique que j'adore, et puis des bâtiments un peu plus récents, donc il y a vraiment du choix pour tout le monde.
Et quant à l'ambiance de vie à Prague?
C'est très festif. Oui. C'est très...
Bon, les touristes font la fête, mais les Pragois aussi. Vous avez pu faire connaissance vraiment avec des Tchèques, des Pragois?
Alors, les Tchèques, autre que le travail, pas énormément, parce que il y a énormément la barrière de la langue qui joue. Quand on s'en rend pas compte quand on vient, parce que
ils parlent pas tous anglais.
Non, malheureusement, dans les sites touristiques, oui, vous allez trouver des gens qui parlent anglais. Dans les rues, je vais en trouver dans les transports en commun, etc. Ils sont toujours serviables sur les questions. Il y a pas de souci sur ça. Mais c'est vrai que quand on sort, on va plus rencontrer de touristes que de Tchèques, bien que les Tchèques soient très festifs. On n'en rencontre pas personnellement.
Bylo letní parno a já šla na plovánu. Byla jsem tam sama, ty jsi tam byl tenkrát sám. Věci samozřejmé zdají se být zázračné. Věci výjimečné zdají se být průzračné. Můj typ vždycky býval známý z velkých plátenky. trochu Alain Delon a tak trochu Steve McQueen.
C'est la fin, que garderez-vous de votre expérience professionnelle, du coup? C'est une expérience professionnelle de plus qui succède à d'autres expériences, celle du Canada, d'autres en Espagne, sachant qu'à Pau, on est tout près. Hein. Et donc, vous parlez, vous maîtrisez l'espagnol. C'est presque comme une deuxième langue maternelle pour vous?
Oui, totalement. C'est vraiment l'Espagne, mon deuxième pays, comme j'aime l'appeler. Je le parle depuis que je suis assez jeune, donc maintenant je peux dire que je suis un peu bilingue. Donc ça aide beaucoup, surtout que là, j'étais en colocation avec des Espagnols, donc ça a favorisé, on va dire, les échanges quand il fallait parler de la maison. C'était plus simple qu'en anglais. Mais,
Et le tchèque, vous n'avez pas trop appris alors?
Si, les mots de base. Si, les mots de base. Bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît. Et santé quand on fait l'apéro pour le tchèque.
On dit comment ça, santé?
Nazdravi.
Ah ouais.
Voilà, c'est le chin de chez nous. Mes collègues ont été adorables, puisqu'elles m'ont, c'est elles qui m'ont donné les idées de villes à visiter en dehors de Prague. Ils sont très gentils, si on tombe sur des personnes qui parlent un petit peu anglais, sinon c'est un peu plus compliqué.
Où vous mène votre parcours, donc dans l'hôtellerie, après avoir quitté Prague?
Alors, après avoir quitté Prague, donc je pars dans 2 jours, je retourne à Pau pour 3 jours pour voir la famille, et puis après je m'envole.
3 jours, oh là là, mais ça va être une overdose, là.
Ça va être rapide et intense. Et puis après, je m'envole, enfin non, je prends le bateau, direction la Corse. Voilà, pour 5 mois.
5 mois pour la saison d'été en Corse.
Exactement, jusqu'en novembre, je vais être dans le sud de la Corse, donc voilà. Nouvelle destination.
Et vos rêves ensuite?
Et après, on verra où le vent me mène, comme toujours... Je me laisse porter.
Eh bien, merci beaucoup, Marine.
Merci à vous.
Diakouye, Diakouyou, Diakouye.
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 C'est merci, et puis c'est plus facile. C'est comme...
Et salut, on dit salut comment? Il n'y a pas un salut plus informel?
Aroy.
Aroy.
Oui, c'est salut, puis après, Dobriden, c'est bonjour, donc là, c'est formel. Nascarano, c'est au revoir, donc Aoi, ça serait
pas bien. Avec le geste, avec la main.
Exactement.
Zatim, Ahoy, à bientôt. Qui sait, un jour à Prague. Fin de la série. Diekouye, Diekouyou, Yarka, Yaroslava Novakova, Guillaume Narguet et Marine Méral. Suivez le guide à Prague, organisé par l'Office national tchèque du tourisme à Paris. Grand merci, Barbara Herman.
Není zač, de rien.
Des guides conseillers, les petits futés République tchèque et Prague. Réalisation, Roman Feocchio. Les sites internet, tchèquetourisme.com et hôtelmonastery.cz.
Dans un instant, ouvrez le dialogue avec Montserrat Vidal.
Oui, 2 philosophes sont avec moi aujourd'hui pour parler de Simone Veil, la grande philosophe, Pascal David et Jean-Marc Guitti, pour leurs ouvrages respectifs.